écouter les scientifiques.
Bien plus qu'une invitation, la phrase d'une gamine de 15 ans à la tribune des Nations Unies est une exhortation aux grands de ce monde. Mais si Donald Trump et ses sinistres complices dénigrent Greta Thunberg, bien plus nombreux sont ceux qui lui emboîtent le pas, et notamment à Manosque, où l'association DLV 2030 organisait une première conférence publique sur le dérèglement climatique. Plus de 100 personnes sont venues écouter et questionner Joël Guillot, directeur de recherche CNRS et coprésident du GREC Sud, groupe régional d'experts sur le climat. Que faire à l'échelle individuelle et collective pour ralentir le réchauffement climatique? Il fut question d'énergie carbonée et décarbonée, de modes de chauffage ou de transport, préservation de la biodiversité, montée du niveau des océans et événements climatiques plus fréquents et plus violents, et surtout de l'accélération des dégradations liées à l'activité humaine. Bref, ce dont depuis plus de 30 ans, les scientifiques du GIEC alertent les populations. L'espoir né au lendemain de l'accord de Paris sur le climat en 2015 et son objectif de limiter les émissions des gaz à effet de serre pour contenir la hausse des températures à 1,5 degré se heurte aux climato-sceptiques qui continuent à nier l'évidence et n'écoute pas les scientifiques. En signalant que la prochaine conférence de l'association DLV 2030 sera consacrée à l'impact du climat sur les forêts de notre région le 21 novembre prochain, je vous propose d'écouter Joël Guillot, intervenant brillant et accessible d'une première réussie. Joël Guillot, vous êtes chercheur au CNRS et vous avez peint un tableau assez pessimiste du réchauffement climatique. La situation est grave.
Oui, j'ai peint un tableau assez pessimiste. Dans la première partie de mon exposé, j'ai expliqué un petit peu tous les problèmes qui sont déjà en cours et puis ceux beaucoup plus importants encore qui nous attendent. Mais quand même, dans la deuxième partie de mon exposé, j'ai quand même donné des pistes de solutions. J'ai essayé d'expliquer quand même si la situation est urgente et qu'elle est grave et qu'il faut prendre des mesures très très rapidement, il est encore temps de faire quelque chose. J'espère que ce message-là est bien passé.
Les objectifs de l'accord de Paris, c'est 1,5 degré de plus. Vous pensez qu'on va y arriver?
Ah ben on est déjà à 1 degré, donc il n'y a plus qu'un demi-degré. Normalement, si on extrapole le réchauffement qu'on a eu depuis quelques dizaines d'années, on arrive en 2040, on arrive à 1,5 degré. En gros, ça se réchauffe de 0,2 degré tous les 10 ans. Donc, si on continue sur la même lancée, eh bien, on arrivera à 2 degrés avant la fin du siècle. Mais on espère bien que on va prendre des mesures pour diminuer fortement les gaz à effet de serre. En tout cas, ce que dit le GIEC, c'est qu'il faut les diminuer de 45% avant 2040 et complètement en 2050. Enfin, en tout cas, tous les gaz à effet de serre qui sont émis doivent être compensés par des absorptions de gaz et de manière à ce que la quantité de gaz dans l'atmosphère n'augmente plus, quoi.
Il faut également préserver les ressources, préserver la terre, faire attention à l'élévation du niveau des océans. Il y a beaucoup de choses à faire encore.
L'élévation du niveau des océans, c'est une conséquence du réchauffement. Malheureusement, ça va continuer encore à fondre. Enfin, les glaciers vont continuer à fondre encore longtemps parce que c'est des objets qui ont énormément d'inertie. Ils ne réagissent pas immédiatement. Et puis ça ne s'arrête pas immédiatement quand on va arrêter le réchauffement. Donc ça, on en a encore pour un certain temps. Par contre, il y a des problèmes urgents, par exemple au niveau de la biodiversité. Énormément d'espèces qui disparaissent ou qui sont en danger. Et ça, il faut prendre des mesures immédiatement parce que quand une espèce a disparu, elle ne revient pas, quoi. Donc c'est des choses qui sont assez irréversibles.
Ça fait déjà 30 ans que le GIEC tire la sonnette d'alarme et pourtant le langage a du mal à imprimer et surtout notamment chez les politiques.
En fait, on s'aperçoit que pour les politiques, ils considèrent que la situation n'est pas si urgente que ça. Ou bien s'ils le reconnaissent, c'est de manière du bout des lèvres. Et donc, ils ne mettent jamais le climat ou l'environnement en général, d'ailleurs, sur le dessus de la pile. Il y a toujours d'autres problèmes qui passent avant, qui sont des problèmes très louables, comme le chômage, etc. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, la lutte contre le climat, ça va de pair avec toutes les luttes pour améliorer l'économie, pas simplement d'un point de vue quantitatif. Le but n'est pas de continuer la croissance comme elle a continué, parce que c'est une croissance en fait qui est basée sur du gaspillage. On remplace les objets trop rapidement, etc. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une croissance saine, pour ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui ont déjà tout ce qu'il leur faut, il n'y a pas besoin de créer des besoins supplémentaires. Donc, en fait, de développer une économie qui soit basée sur la qualité de vie et plus sur la quantité, l'accumulation, quoi.
Vous avez également fait un focus très particulier sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, et qui est en retard.
Oui, c'est étonnant parce que au niveau des énergies renouvelables, il y a aussi un problème au niveau des émissions de gaz à effet de serre, mais au niveau des énergies renouvelables, on est quand même un pays où il y a beaucoup, enfin une région où on a beaucoup de vent, on a beaucoup de soleil. L'Aquitaine, par exemple, a beaucoup plus de surface de panneaux solaires que la région PACA. En région PACA, il n'y a presque pas d'éoliennes. Alors, au niveau des émissions, et ça c'est en partie parce que les transports en commun sont quand même assez faibles en région PACA, les émissions par habitant en PACA, elle est de l'ordre de 20% supplémentaire à la moyenne nationale, quoi. Donc, il y a des efforts à faire au niveau des émissions. Donc ça, c'est des politiques publiques qui doivent mettre en place des transports en commun, enfin tout un système de transport modulaire, comme on dit, de manière à ce que les gens abandonnent la voiture individuelle, en tout cas l'utilisent le moins possible. Et en même temps, il faut aussi encourager les gens à utiliser de l'énergie renouvelable plutôt que de l'énergie basée sur le fossile, quoi, comme le charbon et le pétrole.
Ici, très exactement dans les Alpes de Haute-Provence, c'est une région rurale où l'agriculture est là. On sait qu'il va y avoir des problèmes, et pas uniquement au niveau des pesticides, les ressources en eau par exemple qui vont se raréfier. Est-ce que vous avez, vous, des pistes ou des solutions?
Au niveau de l'eau, il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années qui a montré qu'il n'y aurait pas de problème important dans toute la région avant 2050. Après, c'est difficile à dire. Parce que le problème est que, aussi bien d'ailleurs dans la région de Manos qu'à Marseille, l'eau vient des Alpes. Ça vient essentiellement des glaciers alpins, en fait. On considère qu'elle a déjà diminué de 10% par rapport à il y a une trentaine d'années. Ça va forcément occasionner des problèmes dans l'eau disponible. Mais en même temps, on a les moyens d'économiser l'eau. On gaspille aussi l'eau. En agriculture, au lieu d'arroser à tout va comme on fait, on peut très bien utiliser plus du goutte à goutte, par exemple. Enfin, il y a plein de méthodes qui sont utilisées dans des régions sèches et qui marchent très bien. Donc, on pourrait très bien faire. Et par contre, la région ici, en particulier les Alpes de Haute-Provence, elle est bien placée pour mettre en place tout un système agronomique basé sur l'agriculture de qualité, la production de produits de qualité basée sur l'agroécologie, l'agroforesterie, enfin toutes des méthodes qui permettent en fait à la fois d'améliorer l'agriculture, donc avec une agriculture plus diversifiée on est plus résilient, et en même temps on a aussi possibilité de mieux lutter contre les émissions de carbone, parce qu'une bonne agriculture stocke du carbone au lieu d'en émettre. La région de Manosque est bien située pour ça. Donc, mais il faut continuer à se développer dans le sens d'une agriculture beaucoup plus écologique que maintenant. Mais je pense que c'est vraiment possible et ce serait un intérêt pour tout le monde.
De manière très générale, le scientifique que vous êtes, vous restez quand même raisonnablement optimiste?
Si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit, depuis les accords de Paris, les émissions ont continué à augmenter. Donc, il y a rien qui se passe. Mais cette année-ci, j'ai l'impression qu'avec les jeunes en particulier qui se sont saisis du problème, qui ont fait les marches pour le climat et tout le tissu associatif qui accompagne tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui s'est produite et que finalement, on peut y arriver.